Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, 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 assaisonnement, hop, on enlève.
11h30, la table des bons vivants.
Allez.
Laurent Mariotte.
Bien le bonjour, heureux de vous retrouver en ce long week-end du 11 novembre. Eh bien ici, on fait la paix tous les samedis autour de la table. La preuve aujourd'hui encore, nourriture terrestre et spirituelle au menu. Nous allons explorer le patrimoine culinaire breton avec Catherine Roig. La journaliste culinaire vient de faire un très beau livre sur la Bretagne et vous allez voir, ça ne se résume pas aux galettes et au Queen Yaman. Gad Elmaleh, ça c'est une bonne nouvelle, il vient nous rejoindre avec sa maman pour le plat du jour. Mais en attendant, voici mes bons vivants, deux experts en vin aujourd'hui. Quand elle ne renverse pas ses bouteilles de rhum dans son sac, elle s'en sert comme petit parfum d'ambiance. C'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Oh, c'est petit, hein. Bonjour Laurent.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais oui, ça s'est renversé dans mon sac.
Oh, mais c'était du rhum sans alcool.
Donc normalement, le parfum sera doux.
Donc c'est pas du rhum, ouais. Parce qu'on va parler de boissons sans alcool avec vous tout à l'heure. Exceptionnellement, il a remisé ses bonnes bouteilles pour sortir le four à pizza. Ça va chauffer avec vous, Olivier Pouls.
Bonjour Laurent. Oui, ça va chauffer, les amis. Une bonne pizza, vous les aimez plutôt fines et croustillantes ou plutôt moelleuses, vous?
Je l'aime bien avec les trottoirs, comme on dit, les bords boursouflés.
Ah, ouais. Bah écoutez, je pense que j'ai ce qu'il faut pour vous.
C'est vrai? Ah. Et je vous l'ai dit, hein, Gad Elmaleh nous rejoint avec sa maman pour partager le plat du jour. Et il vient nous voir avec ce film étonnant, drôle et touchant qui s'appelle Reste un peu. Et on fera des boulettes, nous, pour rester ensemble. Allez, on ne change pas nos habitudes. Quel est votre goût de la semaine? Une rencontre au marché, une recette, un plat chez des amis ou un restaurant? Je vous écoute, Ophélie Neyman.
Eh bien, moi, j'ai fait pour la première fois de la saison du jambon à la Saulieu. C'est vraiment un plat que j'adore faire. C'est un plat qui ne coûte pas cher du tout. Vous prenez des grosses tranches de jambon, hein, vous les demandez au boucher assez épaisses que vous roulez. Et par-dessus, vous allez mettre une petite sauce que vous avez faite avec juste un roux. Vous mettez avec du bouillon de bœuf, des champignons, de la crème. Et puis, vous ajoutez du concentré de tomate et du madère. Et alors ça, ça vous fait une sauce de dingue. Vous le mettez sur le jambon, vous passez ça 10-15 minutes au four, vous servez avec du riz. Et alors cette sauce, je vous jure que tout le monde l'adore et que ça réconforte.
Champignons, roux.
Madère.
Roux crémé façon béchamel ou que le roux? Oui, donc c'est une béchamel carrément.
Qui est mouillé vraiment au bouillon de bœuf et puis après vous mettez
sauce
de la crème.
Blanche alors, pas béchamel, une
exactement,
sauce blanche.
Exactement, une sauce
d'accord.
Blanche
ah, oui.
Dans laquelle vous mettez du concentré de tomate et du madère et alors ça vous donne un goût incroyable au jambon.
Ah bah dites donc, ça me plaît. On n'a pas été invité alors, comme dirait Olivier Pouls.
Désolé.
Olivier, votre goût de la semaine.
Eh bien moi, décidément, je suis très italien cette semaine parce que, comme on l'a dit, je vous parlerai de pizza tout à l'heure, mais là, c'est d'un restaurant italien qui ne fait pas de pizza dont je vous parle. Il s'appelle Il Fico. C'est un restaurant sarde qui est situé dans le premier arrondissement de Paris, rue Coquillère. Et j'y ai mangé deux plats fantastiques. Alors tout d'abord, un thon en croûte d'herbe, plein de saveurs, à peine cuit au milieu, vous voyez. Et puis après, surtout un poulpe. Je suis un dingue de poulpe. Et là, ils le font, vous savez, croustille-moelleux.
Ah oui.
Croustillant à l'extérieur, moelleux dedans. C'est un pur bonheur. Et c'est un petit restaurant. Il n'y a pas beaucoup de tables, familial. Et on s'y régale.
Redites
ça s'appelle
le nom.
Il Fico, dans le premier arrondissement à Paris. Ah. Et je les salue.
Mon goût de la semaine, c'est celui du pot-au-feu. J'étais en famille ce week-end et j'avais acheté de quoi faire un beau pot-au-feu, donc du plat de côte. De la queue, non pas de bœuf parce que mon boucher n'en avait pas, donc j'ai pris de la queue de veau. Et ça marche également très très bien. J'ai un peu customisé mon pot-au-feu et puis un beau morceau de paleron. Et voilà, le travail du pot-au-feu, il n'est pas long. Il y a juste un travail qui est un petit peu long, c'est l'écumage. Mmh. Il faut bien écumer pendant une grosse demi-heure. Et ça
enlever
permet...
les impuretés du bouillon et de la viande.
Et ça permet d'avoir un bouillon mais goûteux, parfumé et puis clair en même temps. Et le lendemain, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un chip parmentier, ça se customise. Enfin, voilà. Le pot-au-feu, c'est le plat de saison. Alors justement, c'est l'heure d'aller au marché. En plus des légumes à pot-au-feu, vous allez peut-être trouver d'autres merveilles. C'est vrai que le week-end est un moment propice hein, pour se mettre au fourneau. Tiens, est-ce que vous prenez plus le temps de cuisiner en fin de semaine? Eh bien, Jean-Luc Boujon et Anaïs Cadraon sont allés vous poser la question à Brigné, du côté de Lyon. Ça, c'est Jean-Luc Boujon qui s'y colle. Et à Paris, c'est Anaïs Cadraon qui vous a posé la question.
Je prends davantage le temps de cuisiner, un petit peu le week-end pour préparer la semaine. Le samedi, c'est plutôt le marché, le dimanche, c'est préparation, dimanche matin.
Vous prenez le temps, vous êtes beaucoup devant les fourneaux?
2h30 quand même. à peu près.
Bon, alors qu'est-ce que vous allez préparer là ce week-end?
Des légumes confits.
Ah oui, je passe plus de temps, des recettes vietnamiennes que j'ai pas le temps de faire en semaine.
Je suis en pleine expérimentation sur des recettes traditionnelles avec des textures un peu de pâte gluante. Bah, c'est au moins 3 heures par jour.
Faire par exemple une grosse soupe qui va durer plusieurs jours pour la semaine, ou pareil avec le pot-au-feu. Des gros plats en fait assez conviviaux mais qui durent plusieurs jours quoi.
Des choses que tout le monde aime manger. J'aime beaucoup les plats en sauce avec du fromage, avec de la tomate, avec des petits oignons rissolés et beaucoup de gratin parce que ça, voilà, ça se conserve super bien et tout le monde adore ça. Si j'ai le temps, c'est 1h30 parce que je me lance dans des préparations longues que je pourrais garder. Et quand j'ai vraiment, vraiment le temps, je fais des brioches.
Ah, des brioches, mais quelle bonne idée. Ça, c'est réconfortant, la brioche.
Mais c'est vrai qu'on a changé d'heure, donc la nuit tombe tôt, il fait plus froid. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire de mieux, finalement, qu'être dans sa cuisine, bien au chaud, à mitonner des petits plats? C'est agréable.
C'est pas mieux que de passer une demi-heure sur le smartphone sans se rendre compte?
Mais bien sûr.
On se fait tous piéger par ça.
Moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé de regarder mon smartphone pendant que ça cuisait.
Oui, ça oui, mais ça, on
mais
a le droit.
Près de la chaleur du four.
Non, mais c'est dommage de louper l'action et l'acte de cuisiner. C'est vrai que c'est la saison des chili con carne, des Sobuco, des bœufs bourguignons.
Moi, je regarde le gratin dans le four. C'est tellement beau, c'est quand tu fais les petits blop, blop, blop qui commencent à gratiner. C'est plus beau que la télé.
C'est vrai que vous êtes la seule personne qui a mis un lit de camp devant son four, j'ai vu, pour pouvoir être en osmose avec la cuisson.
J'adore regarder à l'intérieur du four.
Ça, c'est magnifique. On peut faire des risottos d'orge, par exemple, aussi, si on aime les céréales, avec de la courge butternut et des trompettes de la mort aussi.
Ça, c'est les champignons, en ce moment. On peut aller aux champignons. Il y en a encore dans les bois, pour ceux qui ont la chance d'en avoir près de chez eux.
Il y a plein de trompettes.
Je donnerai un coin.
Vous, le pro de la fricassée.
Ah oui, la trompette, c'est un champignon absolument magnifique. On le récolte, on enlève juste le petit bout qui est un petit peu terreux. On ne lave même pas besoin de le laver.
Un petit coup de brosse éventuellement.
Voilà, éventuellement. Et alors, on le jette dans une poêle bien chaude avec un tout petit peu de matière grasse. S'il rend un petit peu d'eau, ce qui peut arriver, on enlève cette première eau de cuisson puis on le rejette dans une matière grasse pour le faire bien saisir. Une petite pointe d'ail à peine, sel, poivre.
La messe est dite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous sommes là et on va parler de la Bretagne parce que c'est vrai que la Bretagne est la région préférée des Français. Hein. C'est un sondage qui le dit et c'est loin d'être un hasard. Vous allez entendre des paysages grandioses, une culture vivante, bien entendu, une identité, une cuisine riche et variée, la terre et la mer dans l'assiette. Tiens, Ophélie, Olivier, avant d'accueillir Catherine Rouague, quel est votre goût de la Bretagne, Olivier?
Alors moi, c'est la mer. C'est deux produits que j'adore par-dessus tout, qui sont le homard et plus encore la langoustine. Je suis un dingue de langoustine.
Ophélie.
Moi, ça va être la terre. Franchement, quand on m'a dit Bretagne, le premier truc qui m'est venu en tête, c'était un artichaut. Gros artichaut. On oublie tout le temps les artichauts. Moi, j'adore ça.
L'artichaut,
je comprends pas les gens qui n'aiment pas les artichauts. C'est tellement bon, ces artichauts bretons. Ils sont
le gros Camus de Bretagne.
Le gros, oui, celui-là. Le gros qu'on va cuire. Alors attention, il ne faut pas qu'il rentre trop d'eau. Mais après, vous effeuillez, vous croquez les petits bouts. Avec juste une vinaigrette, ça peut être très, très simple et très bon.
On peut le retirer de cuisson. Aussi, vous l'emballez dans du film plastique, vous faites plusieurs tours, vous le mettez au four à micro-ondes. Et c'est incroyable.
C'est vrai que c'est bluffant.
4-5 minutes dans un micro-ondes,
et ça
la cuisson est parfaite.
C'est parfait. On va voir si elle acquiesce pour cette cuisson au micro-ondes. Catherine Rouague, bonjour Catherine.
Bonjour Laurent.
Merci d'être là.
Bonjour tout le monde.
On vous connaît, journaliste culinaire émérite. Vous êtes venu nous voir déjà il y a quelques temps avec un très beau livre consacré à la Provence. Vous venez avec ce livre sublime chez Hachette Cuisine. Ça s'appelle Bretagne, un food trip iodé en 100 recettes. Vous allez à la rencontre de ceux qui font le terroir breton, les agriculteurs, les maraîchers, les pêcheurs. Et les chefs aussi, les chefs cuisiniers. Pourquoi la Bretagne après la Provence?
Pour une raison très simple, c'est que j'y suis née. Voilà, je suis née à l'Armor-Plage, à côté de Lorient. Et j'ai grandi dans le restaurant de mes parents, face à la mer, où mon père cuisinait énormément les poissons bretons, bien qu'étant catalan ou espagnol.
Bon, artichaut au micro-ondes, ça vous choque ou pas?
Moi, je ne connaissais pas la recette. Je ne demande qu'à la tester. Ma mère la faisait différemment. Elle trouvait, comme Ophélie, que quand c'était plongé dans l'eau, c'était trop flotteux, entre guillemets. Oui. Et donc, elle le mettait dans un papier aluminium, en papillote, et elle le faisait cuire au four. Alors, c'était très long. Ça demande pas mal de cuisson, mais c'était très bon. Donc, j'ai mis sa recette dans le bouquin.
Quel est le goût de votre enfance, alors, du côté de la Bretagne, Catherine Rouague?
Moi, je pense que je suis très sensible à ce que vient de dire Olivier sur la langoustine, parce que c'est vraiment la demoiselle de Lorient aussi, la langoustine.
La demoiselle de Guilvinec.
Guilvinec aussi, mais de Lorient également. Et je dois dire que moi, j'ai une petite affection très particulière pour le tourteau et pour c'est l'araignée vrai. De mer. Voilà. Parce que mes parents m'en faisaient cuire et je passais des heures à décortiquer ça avec un petit peu de mayonnaise. Et c'est, pour moi, c'était le bonheur absolu.
Je le disais, la Bretagne, région préférée des Français, on en a encore eu la preuve cette semaine, mercredi soir, avec des racines et des ailes consacrées à la Bretagne qui a fait un carton d'audience. C'est vrai que c'est une terre bénie. Hein. On parle de l'Armor, de l'Argoite, avec des traditions culinaires bien spécifiques. Expliquez-nous un petit peu, parce que franchement, c'est un pays à part entière, la Bretagne, hein, Catherine.
Oui, c'est vraiment le nez de l'Europe quoi, qui plonge dans l'océan Atlantique et avec un littoral très très long. C'est des centaines de kilomètres de côte. Donc l'Armor, c'est en breton, Armor, c'est le littoral, c'est les régions au bord de la mer. Mor, c'est la mer. Et Argoat, c'est vraiment les terres. Alors en Bretagne, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on connaît davantage le littoral parce que c'est plus touristique, ça attire davantage. Mais il faut savoir que la cuisine autrefois n'était pas tournée vers la mer. La pêche à grande échelle, c'est récent, c'est le 19e siècle, hein, pas avant.
Bien sûr, c'est vrai que la cuisine bretonne à la base est une cuisine paysanne, une cuisine rustique même, on peut dire. Hein.
Une cuisine carrément rustique où on mangeait vraiment quelques légumes, du lait, des céréales, de l'avoine, du sarrasin, des bouillies de sarrasin et d'avoine. On raconte d'ailleurs que Gargantua serait passé un jour à Huelgoat dans les Monts d'Arrée, on lui aurait servi une bouillie d'avoine, de sarrasin, il était furieux, il aurait jeté les rochers du chaos rocheux comme ça de Huelgoat pour se venger parce que vraiment c'était pas digne de lui.
Ah, c'est la faute à Gargantua alors.
Voilà, c'est ce que raconte la légende.
C'est vrai que le sarrasin a presque disparu à un moment hein, de la région bretonne. On a quand même aujourd'hui des producteurs et des amoureux de la Bretagne qui se remettent à planter du sarrasin, ça revient.
Bien
vous
sûr,
en parlez dans le livre.
Bien sûr, on pense évidemment à Bertrand Larcher, hein, le fondateur des Braise Cafés, qui a aussi une ferme à Saint-Coulon, à côté de Saint-Malo, magnifique, qui donne sur la mer, où il cultive le sarrasin. Et par ailleurs, il travaille aussi avec une association qui encourage les agriculteurs à planter et à cultiver du sarrasin, parce que c'est une plante qui est bonne pour la terre et qui est très bonne pour la santé. C'est plein d'antioxydants pour la terre. Ça ne fatigue pas les sols. C'est une plante vertueuse. Après, il faut savoir l'utiliser autrement qu'en galette.
Alors justement, plutôt que de le cuisiner comme on sait le faire en galette, vous êtes venu avec une recette qu'on retrouve dans votre livre. Quel est ce joli gâteau que je vois devant moi au studio Coluche, Catherine Roig?
Alors, c'est le gâteau, ce qu'on appelle le gâteau breton. Alors, je serais tentée de dire que le gâteau breton est surtout le gâteau de l'Orient. L'Orient, Port-Louis. On sait que les origines exactes du gâteau breton se perdent un petit peu dans les brumes de l'histoire, mais on sait qu'il vient de cette région-là. L'Orient ou Port-Louis, et c'était un gâteau que les marins emportaient sur les bateaux parce qu'il est nourrissant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui. Je vous confirme.
Il n'y a pas de beurre. Non,
non, à juste peine. 25%.
Mais c'est délicieux. C'est un beurre salé en plus. Là.
Ah forcément. Il n'y a pas de beurre doux en Bretagne.
Ça va, je viens de l'Est, moi. Donc, mais je sais que c'est du beurre salé.
Mais vous savez d'ailleurs pourquoi les Bretons ont du beurre salé et c'est une spécialité bretonne, parce que la Bretagne n'était pas soumise à l'impôt sur le sel à l'époque, à la gabelle, et donc eux pouvaient utiliser du sel dans leur beurre, ce qu'on ne faisait pas dans les autres régions.
Alors comment vous faites ce gâteau? Donc du beurre salé, le sarrasin?
Du beurre salé, bien mou, de la farine de sarrasin, de la bonne. Hein, donc si on peut acheter breton, c'est bien.
Bah, c'est
je pense au moulin de la fatigue, dont j'adore le nom, par exemple, qui est excellent. Des jaunes d'œufs, du sucre. Voilà, vous mélangez bien tout ça. Là, moi, j'ai fait la recette de Unique Guillaume, qui a la marque Kerryoun à Lorient et qui vend ça sur le marché à Lorient. Et il est 100% blé noir, c'est-à-dire sans gluten. Ce qui explique aussi sa texture costaud, on va dire, dense. Mais moi, j'aime beaucoup le goût que ça donne au gâteau.
Ah, il est dense, mais en même temps, il est friable hein, quand on le coupe comme ça. Moi, je trouve ça délicieux. Ça, c'est quelque chose qu'on mange au petit-déj. Elle ne dit plus rien, Ophélie Neyman. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on boit, tiens?
En fait, moi, j'adore ça. C'est vraiment délicieux.
Qu'est-ce qu'on boit avec un gâteau comme ça?
Moi, je ne conseillerais pas du vin. Je trouve ça un peu compliqué, le vin, avec ça.
Ouais.
Naturellement, j'irais vers une bière, une bière de sarrasin. Je ne sais pas si Olivier a une autre idée.
Et pourquoi on n'essayerait pas de l'hydromel, tiens?
Ah, c'est bien
ça
l'hydromel.
Une bonne idée. Oui.
Vous savez qu'il y a des producteurs aujourd'hui qui revisitent cet hydromel.
Ouais,
le chouchène breton qui avait mauvaise réputation parce que c'était un petit peu un assommoir, mais aujourd'hui, il y a la cave du Dragon Rouge à Dinard qui fait de l'excellent chouchène, vraiment à goûter, ça pourrait être bien avec.
Eh bien, ça mérite réflexion, on va réfléchir pendant la pause. On va revenir avec des spécialités laitières bretonnes aussi, on va continuer à faire le tour de ce pays riche riche et variée entre terre et mer. Mais avant, on écoute le bruit de cuisine parce que vous pouvez gagner le Blender Power 5XL Connect de Magimix. Écoutons ce nouveau bruit de cuisine puisque c'est tombé la semaine dernière avec Alain Ducasse. Oh là là, c'est fastoche. Ah, je le trouve fastoche. Je le trouve fastoche. 3921, où vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr et on vous rappelle.
Le samedi matin sur Europe 1, c'est la table des bons vivants avec Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table avec Catherine Roig, auteur du livre Bretagne, un food trip iodé qui paraît chez Hachette la semaine prochaine. Ça fait partie des beaux cadeaux de Noël que vous pouvez faire sans vous tromper. Un food trip iodé en 100 recettes. On parlait de votre sarrasin, de votre beau gâteau sarrasin, Catherine Roig. Et on va parler spécialité laitière aussi, hein, parce que c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais la Bretagne n'a pas une grande tradition fromagère, mais il y a une belle tradition autour du lait et du beurre, parce qu'on produisait, hein, pour fournir la capitale et le reste du pays en lait et en beurre. Et il y a deux spécialités laitières que j'aime beaucoup, moi. Il y a le lait ribot et le goël. Alors expliquez-nous un petit peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ces deux spécialités laitières. Le lait ribot, par exemple.
Ah bah le lait ribot, c'est un lait fermenté, hein. C'est le kéfir breton. Hein. C'est toujours été, ça baigne, moi qui ai grandi en Bretagne, dans les crêperies, etc. Puis il y en avait toujours à la maison. Ma mère, elle faisait un riz au lait ribot qui était excellent. Et je sais que le chef, oui, Christian Lesquer, qui est breton aussi,
au Georges V,
fait ça de manière formidable. Dans une cocotte, maman, elle mettait ça au four avec des heures, avec un petit peu d'écorce d'orange.
Il fait un poisson avec du lait ribot. Il fait un Saint-Pierre au lait ribot. Il fait un poisson aussi au lait ribot.
Ah, ça ne m'étonne pas, c'est très possible. Et moi, j'aime beaucoup faire une salade de bonnes pommes de terre bretonnes, de l'île de Kémenes, par exemple, que je vais arroser de lait ribot avec un petit peu éventuellement d'huile de chanvre ou de colza. Et puis je mets des paillettes d'algues dessus, puisqu'on en trouve de plus en plus maintenant en Bretagne aussi.
Et un mot sur le goël que vous venez de goûter, Olivier Pouls, qui est le cousin du fromage blanc breton. Hein. C'est une sorte de fromage blanc avec un ferment particulier.
C'est un ferment local, c'est ce qu'on appelle un ferment indigène, qu'une association de producteurs ont ressuscité il y a 25 ans. Ils l'ont appelé le goël, mais en fait, ça s'est toujours appelé le gros lait en Bretagne. C'est le yaourt breton, hein. C'est vraiment très très bon. Mais ça doit être fait avec du lait issu de vaches pinoires.
Race bretonne locale.
Race bretonne locale qui a failli disparaître au profit des grosses vaches néerlandaises qui donnaient davantage de lait. Mais heureusement, quelques agriculteurs malins avaient réussi à préserver cette petite race de vache qui n'a pas une rentabilité en termes de lait très importante, mais qui donne un lait magnifique.
Votre livre Bretagne, c'est aussi l'occasion de dépasser, on va dire, l'image de l'agriculture intensive, hein, qui colle à la peau de la Bretagne. Parce que c'est vrai qu'on le sait, on a parlé beaucoup des élevages intensifs de porcs, de volailles et autres. Donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure aussi, Catherine.
Ah bah oui, bien sûr. Nous, on est allé voir, vraiment, on a résolument tourné le dos à ce genre de pratique. Hein. Et dans nos livres avec Emmanuel Asselineau, on favorise vraiment les agriculteurs vertueux, les pêcheurs qui pratiquent la durabilité, la pêche durable. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, de la jeune génération essentiellement, qui reviennent à la diversité des cultures sur leurs exploitations.
Et vous êtes venu avec une belle spécialité charcutière bretonne que vous pourrez déguster ce week-end si vous en trouvez de la bonne chez votre boucher. C'est l'andouille de
Guéméné. Bien sûr, Guéméné sur Scorff.
S'il vous plaît.
Bien sûr, qui est une petite cité du Morbihan.
Fumée,
ah ben ça, elle est fumée, hein, ah oui, vraiment, bah, elle est très fumée.
Oui, mais fumage délicat, vous voyez, parce que là, je l'ai sous le nez.
Au bois de hêtre.
Effectivement, on sent le fumage délicat qui ne prend pas le pas sur le cochon. Et qu'est-ce que j'aime avoir Ophélie Neyman à cette table, parce que regardez là, elle se régale depuis
chaque
le début.
Fois je mange,
et
je
rien ne lui fait peur. On passe du gâteau sarrasin avec une petite lapée de goël et on reviendra sur l'andouille de Guéméné.
Mais ça sent tellement bon.
Alors là, vous avez deux qualités.
Oui, il y en a deux, oui.
Racontez.
C'est Benoît Rivalent qui a repris en fait la charcuterie artisanale de ses beaux-parents, pardon. Et il a renoué vraiment avec la tradition. C'est des recettes qui datent de 1931. Donc vous avez l'andouille, on va dire classique, qui est séchée 3 semaines avant d'être cuite.
Exceptionnel.
3 semaines. Et vous avez l'andouille qui est faite à l'ancienne et qui rappelle vraiment les pratiques des anciens qui tuaient le cochon et qui allait d'un cochon à l'autre séchant ça 9 mois. Mon conseil, c'est si vous voulez la cuisiner, moi j'adore ça avec une écrasée de pommes de terre, quelques oignons, c'est de prendre celle qui est la moins séchée et l'autre Elle se déguste comme ça, hein. Franchement,
elle est
extraordinaire.
Non, mais la chair est fondante, elle est délicate et le fumage vient enrober. Mais c'est vraiment de l'art, ça. Parce que le fumage, souvent, une fois sur deux, on va se dire la vérité, il prend le pas sur la viande.
Oui, hein, donc... c'est un goût en bouche qui est...
On a du mal à se débarrasser. Ouais. Ben c'est... Elle est exceptionnelle. Hein. C'est Monsieur Rivalan, il travaille. C'est un orfèvre des boyaux de cochon, hein, on va dire.
Votre livre s'appelle donc La cuisine de la Bretagne. Je le redis, il est paru chez Hachette Cuisine. Et vous le terminez, ce livre, avec une ville aujourd'hui emblématique de la gastronomie bretonne. C'est la ville de Rennes.
Ah oui, il se passe beaucoup, beaucoup de choses à Rennes, hein, qui s'est réveillée d'un point de vue gastronomique depuis, une toute petite dizaine d'années. Et on y trouve beaucoup, beaucoup de chefs, et moi qui m'ont beaucoup étonnée, beaucoup surpris par la qualité de leurs recettes, de leur rapport qualité-prix. Je pense à un restaurant qui s'appelle La Petite Ourse, qui est un cuisinier formidable en la personne de Germain Caillé. On y déjeune de manière... J'ai bien, on y déjeune parce que c'est la nouvelle génération de restaurateurs, donc ils ne servent qu'au déjeuner. Et vous avez une formidable raviole au gouelle, justement. Vous pouvez avoir une tarte tatin au gouelle également, du cochon confit. C'est merveilleux.
Il y a de beaux festivals aussi en Bretagne qui mélangent cuisine et musique, Ophélie.
Oui, alors à Saint-Brieuc, par exemple, il y a Rock and Talk. Donc c'est assez sympa. Et même à Sainte-Anne-d'Auray, il y a les galettes du monde.
Mais je voudrais juste revenir
sur Rennes, parce qu'il y a quand même pas mal de rendez-vous culinaires. Tous les premiers dimanches du mois à la Criée, il y a le marché à manger. On l'appelle le MAM entre nous. Mais voilà, c'est un espèce de petit marché à la sauce bretonne où on va trouver que des choses très bretonnes. Et puis à Rennes, toujours, il y a le festival Goût de Rennes, qui est dédié à la gastronomie rennaise. Ça fait 2 ans, c'est en octobre, c'est passé là. Et je termine avec les toquets de Mito. Ça sera en avril. Et alors, c'est l'occasion de parler et de manger en même temps, ce qui, moi, me plaît, deux belles activités.
On parle pas la bouche pleine.
Et merci d'agir pour la Bretagne, Catherine Droag. Merci d'être venue avec ce livre. Vive les Bretons, food trip piodé en 100 recettes. C'était vraiment un petit apéro du livre qu'on a pu vous faire déguster ce samedi midi. Mais ça vous donne vraiment envie, vous allez voir, en feuilletant les pages de Cuisiner Breton. Vous retrouverez les références, évidemment, en vous abonnant à la newsletter à table sur europe1.fr. Et c'est gratuit. Merci Catherine Droag. Et on revient dans un instant avec Gad Elmaleh qui va nous retrouver bientôt avec sa maman.
Les bons vivants se mettent à table sur Europe 1 avec Laurent Mariotte.
Nous voilà toujours en bonne compagnie avec Ophélie Neyman, journaliste vin dans le journal du Monde. Vous pouvez la lire tous les week-ends. Olivier Pouls, journaliste également à la Revue du Vin de France, s'il vous plaît,
à la belle rédaction des
Flacons. Hein. Et Gad Elmaleh nous rejoint dans un instant. Mais juste avant, je voulais vous présenter un livre qui vient d'être édité en français et qui mérite qu'on s'y attarde, je trouve. C'est un indispensable, comme dirait le camarade Philippe Vandel. Ça s'appelle « L'art de la cuisine simple », tome 2. Et c'est d'Alice Waters. Vous connaissez Alice Waters, Ophélie ? Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bah c'est quand même une grande dame de la cuisine moderne aux États-Unis. Hein. Elle avait un restaurant qui s'appelait Panisse à Berkeley. Enfin, elle l'a toujours d'ailleurs. Et c'est aussi une des premières dames qui a appris à éduquer les enfants au goût aux États-Unis. Donc vraiment, elle a introduit la notion de goût et la notion de plaisir.
C'est une cuisinière qui est aussi une militante, qui a milité pour la saisonnalité, pour les circuits courts, pour une cuisine... loin des clichés qu'on a de la cuisine américaine, si vous voyez ce que je veux dire. Une vraie cuisine de légumes, de produits et de saison.
Et ça se ressent dans son livre, hein, d'ailleurs, parce qu'on le voit bien, chaque fois qu'elle aborde un légume, elle explique comment on le cultive, comment on le cueille, comment on le conserve. Et ça, c'est quelque chose que je ne lis jamais dans les livres. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous le voler, Laurent,
ce livre.
Exactement,
mais j'allais vous lire un passage, justement, parce qu'elle parle du chou, par exemple. Hein, c'est la saison des choux, on peut faire plein de choses avec le chou. Et c'est vrai qu'elle prend le temps de parler du légume, de l'envisager, de l'approprier. Variété de chou favorite est le chou de Milan ou chou de Savoie. Sa saveur est douce et sucrée, ses feuilles sont plus souples que le chou lisse, ce qui les rend plus faciles à séparer pour préparer du chou farci par exemple. Le chou de Milan de Pontoise, cette belle feuille verte gaufrée, teintée de violet. Enfin, vous voyez, elle détaille
c'est
bien.
C'est de la littérature.
Oui, mais c'est de la littérature qui se mange et c'est ça qui est très agréable.
On le lit dans son lit le soir avant de s'endormir.
Absolument, et ça apaise. Mmh. Vraiment, ça fait du bien. C'est comme une tisane, vous avez raison, ça soulage. Alors tiens, quelques petites recettes autour du chou qu'on peut trouver dans ce livre. Salade de chou rouge aux dattes et kumquat, vous savez, c'est des petits agrumes. Salade de chou chinois épicé. Choucroute sautée au panais, ça c'est pas mal.
Oui. Et
puis elle ose aussi. Chou de Bruxelles sauté au vinaigre de Xérès. Mmh. Ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est la diversité des propositions. Et puis voilà, on apprend des tas de choses. C'est vraiment un livre inestimable. Et puis c'est un livre qui colle bien à notre philosophie, quoi.
simple. C'est tout à fait l'esprit simple, de ce qu'on défend.
Et bon, et de saison.
On comprend qu'Elly Slaughter a été nommée vice-présidente de Slow Food. Slow Food, c'est quand même ce mouvement mondial maintenant très important où on prend le temps. On prend le temps de choisir ses ingrédients, on prend le temps de cuisiner. Et là, on le retrouve dans ce livre. Donc, il y a vraiment quelque chose de cohérent.
Et on avait beaucoup parlé d'elle, vous vous souvenez, quand Michelle Obama a fait un potager à la Maison Blanche, c'est Elly Slaughter qui l'avait aidé. Donc voilà, ça y est, son livre est sorti en France, il est traduit, ça s'appelle « L'art de la cuisine simple 2 ». Et c'est chez Actes Sud, Kéribus Éditions. C'est vraiment un très, très beau bouquin.
Vous nous l'offrirez à Noël, Laurent?
Moi, oui, je vais le mettre sur ma liste pour le Père Noël
si
aussi.
Vous voulez. Ouais. Attendez, je regarde. Oui, je vous l'offrirai. Très bien. C'est l'heure de retrouver l'ami Jean-Luc Petit-Renaud pour partager son goût de l'époque. Alors, cette semaine, dites donc, il est chafouin, notre camarade qui aime croiser la fourchette et le couteau. Ben si, figurez-vous qu'il en a assez de voir certains restaurants, vous savez, tourner autour de la même recette.
Le monoproduit, quoi.
Oui, c'est ça. Hein, tonton Jean-Luc, content de vous retrouver, en tout cas.
C'est gentil. Vous savez que j'étais en colère, justement. Ça fait du bien de vous voir, parce que ça me calme. J'en ai ras-le-bol de ces concepts qui ont pris le pas sur la belle messe qu'est le repas. Comme au théâtre, j'ai envie de voir plusieurs acteurs dans l'entrée, dans le poisson, dans la viande, dans le fromage, dans le dessert. J'ai envie de tout ça et j'ai pas envie qu'on me bouleverse. Alors je fais attention à cette idée de plat unique, à cette idée de concept. Subitement, vous avez vu cette mode, elle est géniale, quoi. Ça va être le concept, ça va être, par exemple, on va faire tout saucisse. Alors, de l'entrée jusqu'à la fin du dessert, c'est jusqu'au vrai café, il y aura des saucisses, il y aura des coquillettes. Coquillettes à la carbonara, coquillettes avec du ketchup, coquillettes en salade, coquillettes, coquillettes, coquillettes. Au bout d'un moment, coquillettes, j'en ai ras-le-bol. Dites-moi combien de temps cette mode va durer, cette mode répétitive. Retrouvons ce bonheur de la table où l'on croise le couteau, la fourchette avec un rythme. Vive le repas à bas le concept. J'aime pas ça, ça me met en colère.
On a compris, hein, tonton Jean-Luc, on a bien compris qu'il était chafouin. C'est vrai que ça fleurit, hein, ces restaurants
Mais je sais pas si ça dure très longtemps, vous savez. Il y a un moment où on s'en lasse, on se fatigue et puis les modes tournent. Et quand on se focalise uniquement sur les coquillettes ou uniquement sur le, je sais pas moi, le ceviche ou je ne sais quoi, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y retourne?
Il y en a qui durent. Hein.
Je note quand même, oui, il y en a qui durent et puis ça dépend du produit parce que personne n'a jamais râlé sur le menu tout truffe. Hein. Moi, je me souviens d'avoir goûté ça. Et ben, franchement, ça tire sur tout le repas. Ça fatigue un peu. Vraiment, ouais, ça fatigue un peu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit.
Ça vient,
là,
ça, ces restaurants monoproduits, ça vient de ces guides qui ont lancé le meilleur burger, le meilleur falafel. Donc, il y a eu des compètes comme ça pour se battre autour du meilleur burger dans telle ville. Et du coup, certains restaurants se sont dit, bah, tiens, je ne vais faire que des burgers, je ne vais faire que des falafels, etc. Mais on en redébattra, tiens, ici. Allez, c'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine, vous le savez. Europe 1 vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix, votre nouveau partenaire santé et bien-être connecté en Bluetooth. Pour des recettes équilibrées et gourmandes, il est garanti 30 ans. Vous aurez plus d'infos sur l'application gratuite Magimix. Et on accueille notre première auditrice au téléphone aujourd'hui, c'est Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Laurent, bonjour la table des bons vivants.
Comment ça va? Vous nous appelez d'où?
Eh bien écoutez, je suis dans ma cuisine, comme tous les samedis en fin de matinée, parce que je suis sur mes casseroles, car je prépare mon déjeuner d'anniversaire. Donc voilà, une tablée de personnes.
Joyeux anniversaire, une scorpionne?
Exactement.
Ah, on a plein de scorpions dans l'équipe.
Et qu'est-ce qu'on va manger pour votre anniversaire?
Eh bien des coquilles Saint-Jacques à la nage, une recette de ma mère. Voilà.
Et vous nous appelez de Bretagne, je vois sur ma fiche. On vient de parler de la Bretagne avec Catherine Roig.
Exactement. De vin, donc comme c'est la saison des coquilles Saint-Jacques, j'aime bien cuisiner produits de saison. Donc coquilles Saint-Jacques à la nage, ensuite un rôti de veau à l'orlof.
Eh ben.
Et pour le dessert, un gâteau cru au chocolat, une recette de mon beau-père avec des amandes grillées. C'est
magnifique.
Voilà. On arrive.
Ben, on va venir pour l'anniversaire, on a des cadeaux, on a tout ce qu'il faut. Alors on écoute le bruit de cuisine parce que vous allez peut-être gagner un beau cadeau justement, le Blender Power 5XL de Magimix. Écoutons ce nouveau bruit de cuisine. Alors, un ustensile ou une action en cuisine?
Moi, c'est le bruit que je fais quand, quand je décolle mon caramel dans ma casserole qui a trop collé. Voilà.
Pas mal. Ah oui. Eh oui, une bretonne, ouais, elle fait du caramel, bien sûr.
Mais il a bien pris dans le fond de la casserole, là.
Oui, il a bien pris.
Ouais.
Et parfois, il faut même changer de casserole, parce qu'on n'arrive pas à le décoller. Mais c'était bien vu, mais c'est pas ça, Françoise. Mais on vous envoie justement le beau livre de Catherine Roig, Bretagne.
Avec plaisir.
On vous l'envoie chez vous.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci, Françoise. On vous embrasse et on rejouera avec
au
ce bruit de cuisine
bon
tout à l'heure. Absolument, restez avec nous jusqu'à midi et demi, puisque Gad Elmaleh nous rejoint dans un instant.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Humoriste, showman, comédien et même chanteur, il nous éblouit depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, eh bien, il nous surprend, il nous émeut avec Reste un peu, son deuxième film en tant que réalisateur. C'est notre invité ce samedi midi. Il est avec nous et il va rester jusqu'à midi et demi. Reste un peu, Gad Elmaleh. Bonjour, Gad.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Comment ça va?
Ça va très, très bien. Ça va. Non, je riais parce que vous avez dit il reste jusqu'à midi et demi pour Reste un peu. Et donc, je trouvais que c'était pas mal déjà.
C'est pas mal.
Ouais, hein, je reste un peu. Je reste pas mal quand même.
Vous restez pas mal du tout et
je
on est content.
Je reste un petit peu.
Un petit trois quarts d'heure.
Bah ça, c'est très bien.
C'est bien.
Bah ça pourrait s'appeler Reste beaucoup.
Et on est ravis de vous accueillir avec ce film Reste un peu, on va en parler. Qu'est-ce que vous faites habituellement, tiens, le samedi matin à cette heure-ci? Vous faites le marché, vous cuisinez, vous êtes dans cette ambiance-là ou pas du
Alors,
tout?
Alors, non, le samedi matin, normalement, je suis en train de préparer le petit-déj de mon petit garçon quand il est avec moi. Ouais, j'aime bien. C'est le petit-déj. Moi, je suis un. Bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de travail, mais il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup d'attention.
Ouvrir une boîte de céréales.
acheter du jus d'orange.
Non, des vraies tartines, du beurre.
Des vraies tartines.
Bah voilà. Ouais, voilà. Non,
mais vraiment, j'aime bien préparer le petit-déj. Ça paraît un peu paresseux. Et puis, on se dit, ouais, on cuisine pas. Mais il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de générosité et d'amour.
C'est
dans
un vrai
petit-déj.
Geste d'amour de préparer le petit-déj pour ceux qui
vous
qu'on
en
aime.
Savez quelque chose.
Absolument, je suis bien d'accord. Absolument, j'en sais quelque chose. Quel est votre goût de la semaine, Gad Elmaleh?
Le cumin.
Ah, c'est le Maroc, ça?
C'est le Maroc et c'est une épice qui est très forte. Elle est riche, c'est une madeleine de Proust. Elle peut être un peu agressive. J'adore le cumin, il y a de tout dedans. Il y a beaucoup de... Il y a de la douceur, c'est fort, quoi. C'est fort.
Ça réveille des légumes, des légumes rôtis au four avec du cumin.
Ça réveille des légumes.
Ils prennent une autre dimension.
Complètement.
L'agneau et le cumin.
Les œufs. Hein. Les œufs au plat.
Ah oui.
Ah ouais, les œufs au plat.
Mariage magnifique.
Bon, vous avez vu que mes exemples sont assez sommaires en termes de.
Ah non, c'est bien. Mais ouais. On aime
mais
la simplicité.
Dans le petit-déj.
Mais
moi,
on aime la
simplicité. Hyper soft. Hein, vous remarquerez, je dis rien. C'est l'odeur de la sueur de mon mari. Quand mon mari transpire, il sent le cumin. Ouais, et en fait, j'aime bien.
Mais elle a raison.
Vraiment.
Non, mais blague
oui,
à part.
C'est une odeur un peu de sueur, je trouve, parfois.
Est-ce qu'il a plusieurs odeurs ou c'est la seule odeur qu'il
alors,
a
c'est tout un mélange, c'est un bouquet. C'est un bouquet. Mais le cumin domine.
Mais on associe
et
souvent.
Et vous, c'est quoi votre. C'est la harissa? Comment ça se passe quand vous transpirez?
Moi, ça sent la badiane, l'anis étoilé.
Mais c'est et
Laurent,
vrai qu'on associe.
Et Laurent, c'est quoi donc l'odeur?
Fleur d'oranger, moi. C'est fleur d'oranger.
Moi, c'est frites.
C'est un
génial.
Belge. C'est le Belge.
Ah, c'est génial. Moi, je sens le chocolat, il paraît.
Alors, vous venez nous voir, Gad, avec un film
si
touchant.
Toi aussi tu as une odeur, rejoins-nous dans le club des odeurs perso.
Europe1.fr. Je le disais, Gad, vous venez nous voir avec un film touchant, intime, drôle. Ça s'appelle Reste un peu, un film dans lequel vous révélez votre adoration pour la Vierge Marie. C'est pas facile à avouer quand on était élevé d'ailleurs dans la religion juive. C'est votre histoire, vous jouez votre propre rôle, vos parents aussi, votre sœur Judith également, et vous leur annoncez que vous avez l'intention de devenir catholique, de vous baptiser, de vous faire baptiser. C'est une vraie crise de foi.
Ah, avec le cumin et tout, c'est lié. C'est un séisme, c'est une tragédie, c'est un scandale. C'est en tout cas dans une famille traditionnaliste juive, ou musulmane d'ailleurs, où quand on est dans un culte, une foi, une confession, et qu'on a des traditions, c'est vrai que c'est un bouleversement. Donc c'est une catastrophe. Je me demande même si un coming out passerait pas plus facilement.
C'est vrai,
en tout cas.
Mais on le voit dans le film. Hein. Alors on peut pas tout raconter.
Pas le coming out.
Non, pas le coming out, mais on voit que c'est compliqué
c'est
à faire passer.
C'est vraiment une crise de foi, comme vous dites. Après, on ne peut pas tout dire parce que la réponse vraiment à cette question, elle est dans le film, s'il va au bout ou pas et comment il y va.
C'est un film plus sur la foi, que la quête de la foi,
que
de la religion. Oui.
Ouais, complètement. Après, le point de départ est vrai, c'est-à-dire enfant, je rentre dans cette église et je vois une représentation de la Vierge Marie et je suis bouleversé. J'ai étudié le Talmud et puis j'ai été chez mes parents éduqué dans la tradition juive. Est-ce que je me suis tourné à un moment donné et j'ai lu et j'ai écouté mes amis chrétiens, catholiques, que d'ailleurs je taquine un peu dans mes spectacles avec affection en disant qu'ils ne s'assument pas. Donc j'avais envie de parler de ça aussi, de cette foi catholique qui n'est pas assumée en France, je ne sais pas pourquoi. Je parle de ceux qui le pratiquent et qui le sont et qui l'assument en privé, qui ne veulent pas l'assumer en public. Et c'est aussi un film sur la fraternité, sur le dialogue. On parle beaucoup de vivre ensemble, on parle de paix entre les communautés, mais finalement on ne se connaît pas beaucoup. Et c'est un film qui permet en tout cas de se connaître.
Et la table permet aussi de bien se connaître et de passer du temps ensemble. C'est ce qu'on va faire avec vous jusqu'à 12h30. Votre maman Régine va nous retrouver dans un instant.
C'est la première fois de ma vie que je fais une émission de radio avec ma maman.
Oui, je sais, ça nous fait très plaisir. Et c'est votre première interview d'ailleurs sur Europe 1. Donc merci d'avoir choisi la table des bons vivants, Gad. Et je passe du coq au vin.
Je passe du coq au vin.
Du coq au vin, bien joli.
Je passe du coq au vin.
Vous aimez les pizzas?
J'adore les pizzas.
Je vous avais prévenu,
il faut
hein,
toujours dire à quelqu'un qui présente une émission, il faut le suivre dans son truc. Ou alors c'est quelqu'un qui veut faire une blague sur quelque chose. J'ai souvent eu ça dans ma carrière.
Alors ça donnait une idée à Olivier, ouais, Pouls, qui a testé un four à pizza pour vous cette semaine. Et on va faire une bonne pizza maison avec vous. On parle pas de vin aujourd'hui.
Pizza au four, dans le vrai four à bois.
Bah parce que vous savez, le problème de la pizza, pour faire une bonne pizza, c'est une pâte, des ingrédients, mais c'est surtout la cuisson. Ouais. Et c'est là que ça pêche quand on est à la maison. Cuire une bonne pizza dans un four traditionnel à la maison, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que le four ne monte pas assez haut en température. Ah. Regardez, il arrive. Alors là, pour répondre,
il arrive sur des roulettes,
à
c'est
cette
incroyable
problématique,
comme sur des roulettes,
il y a une solution, elle s'appelle Flamoven. C'est un ingénieur français qui l'a développé. Il s'ennuie un peu pendant le confinement. Il adore les pizzas, lui et ses enfants. Et il a eu l'idée de créer un four dont l'idée est de se rapprocher le plus possible de l'authentique, du vrai four à pizza à bois.
Comment ça marche alors?
Ben regardez l'engin, ça ressemble. Hein, ça ressemble.
Moi, il dit d'aboyer, j'aboie.
Ça ressemble à une boîte métallique, hein, ça l'est d'ailleurs.
Non, c'est une, c'est une boîte
dedans, en métal. Dedans, vous avez une zone pour cuire la pizza avec une pierre et à l'arrière, un petit foyer dans lequel vous mettez du bois, du vrai bois. Alors, on met des allumes-feu bio, hein, pas des trucs qui sentent mauvais. On met des petites bûchettes, on allume. Et en une vingtaine de minutes, le four monte à 400
génial
degrés. Ça marche extrêmement bien parce que du coup, la pizza, elle cuit en une minute trente à peine.
Quoi
et surtout,
faut
elle
un
est
jardin,
croustillante.
Ça marche pas en intérieur, votre histoire,
ah,
quand même. Hein.
Ah, ça marche pas en intérieur?
Ah bah non.
Bah disons que vous allez avoir des problèmes avec la copropriété.
Et puis même des problèmes de santé. Attends, et le monoxyde de carbone.
Respirer non, le,
oui, sur le balcon,
compliqué,
quoi.
Sur le balcon.
Voilà. Sur un balcon.
Sur un balcon.
Ouais. Ouais. Alors, ça vaut à peu près 400 euros. C'est un petit budget, mais enfin,
ah oui, quand même.
Noël approche. Mais surtout, on peut faire d'autres choses dedans. Moi, j'ai essayé une côte de bœuf. Ça marche hyper bien. On la cuit moins longtemps,
mais on le branche
évidemment. Non, non, on allume le feu.
On met
dans
des petites bûches à l'arrière.
On met des petites bûchettes là.
Il faut avoir coupé ces petites bûchettes, hein, quand même.
Il faut avoir prévu le petit bois.
Les petites bûchettes.
Vous prenez le temps de cuisiner le week-end ou en semaine?
Non, je ne suis absolument pas doué. Je suis fasciné par les gens qui savent cuisiner. J'aime voir et manger ce que cuisinent mes amis, ma famille, mais je suis absolument pas bon en cuisine.
Et puis, on peut le dire, bien élevé par une maman très bonne cuisinière.
Oui, elle a un vrai talent. Et puis, c'est culturel. Et puis, c'est une tradition. Et puis, c'est une transmission. Là, oui, mais je ne suis pas bon, je suis nul. Et parfois, j'essaie, mais c'est triste, quoi.
L'objectif, c'est de faire une soupe.
Il n'y a pas d'apéro sans saucisson.
Ma grand-mère, elle adore cette recette.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Don't move, hein. We are coming with you.
How do you do? Thank you to be here. You are chez vous.
Where is Brian?
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bienvenue hein, si vous arrivez. Merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Nous sommes avec Gad Elmaleh qui est venu nous voir avec son film qui sort mercredi prochain, le 16 novembre. Ça s'appelle Reste un peu. Distribution, Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh, Judith Elmaleh. Ça se passe en famille. On va en parler et nous avons la joie d'accueillir au studio Coluche avec vous, Gad, quelqu'un que vous connaissez bien. Je vais vous laisser la présenter. Tiens.
Eh bien, c'est la première fois de ma carrière et de ma vie que je fais une émission aux côtés de ma maman, ma mère qui joue merveilleusement bien dans ce film,
et
qui est bouleversante, qui est émouvante, qui est très drôle. Elle prend l'air étonnée, ça c'est, oui. c'est déjà une grande actrice.
C'est déjà une grande actrice.
Ouais, c'est ce que font les grandes actrices, c'est les grandes stars.
Venant de toi.
Bonjour Régine.
Bonjour.
Merci Bonjour. D'être là, on est très très content de vous accueillir. Et il a Merci. Raison, votre fils, qu'est-ce que vous jouez bien dans ce film. Mais on vous connaissait déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que Gad, il aime bien vous filmer et vous mettre en avant.
Dans l'intimité, ça marchait bien, mais là, bien. Le cinéma, enfin, je ne sais pas.
L'intimité, c'est des vidéos qui ont fait 1,5 million de vues. Ouais.
Où vous parlez de votre amour de la fameuse cuisine de tiroir.
Oui. Les produits du tiroir.
Les produits du tiroir. J'adore cette vidéo. Alors, vous venez nous voir avec ce beau film, Reste un peu, où Gad vient vous voir après son retour des États-Unis. Il vous raconte que, voilà, il est ébloui.
Il ne raconte rien.
Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte, tiens, dans la vie ?
Racontez, tiens. Il me propose de jouer dans son film. Il me dit, il n'y a pas de scénario.
C'est engageant.
Ça, c'est pour embrouiller.
C'est pas très rassurant.
Ça, c'est pour embrouiller.
Exactement. Et bon, on l'a reçu à la maison avec toute l'équipe, et je ne vous dis pas le matériel qui s'est déployé dans la maison.
C'était un tournage assez léger, hein. J'ai vu quelques photos et tout, mais vous avez quand même cuisiné pour l'équipe en même temps que vous tourniez. Hein.
C'était familial, c'était convivial.
C'était intime, vraiment.
Oui, c'était intime. Et puis mes parents, imaginez-vous, dans leur vie, le matin à 8h, 12 personnes qui sonnent chez eux, dans leur appart, puisqu'on a tourné chez eux, pour tourner des scènes du film. Il y avait une vraie joie, une vraie vie tous les jours chez eux.
Moi, ça m'a vraiment bouleversée, en fait, quand vous rentrez dans la chambre, parce que cette chambre, elle fait tellement vrai. Quand vous rentrez dans la chambre, tout au début du film, pour poser vos affaires. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, ça doit être vraiment leur appartement. Parce qu'il y a tellement de choses dedans, ça fait pas fabriquer, ça fait tellement authentique que c'est assez bouleversant, c'est très touchant.
C'est l'appartement.
Et qu'est-ce que vous jouez bien et qu'est-ce que c'est bien vu, quoi, cette idée de ce fils élevé dans la religion juive qui, voilà, et c'est votre histoire vraie, hein, Gad. Vous avez eu un éblouissement pour la Vierge Marie dès votre enfance,
oui,
même. Hein.
Oui, complètement. Et j'avais envie de restituer ça, mais j'avais envie aussi que ce soit authentique, encore une fois, c'est ce que vous dites, que ça sonne vrai. Donc cette énergie, cette vibration, on est à la frontière du docu, je l'aime bien. Je sais même pas classifier, genrer. C'est un film non genré. C'est un film non genré. La seule chose que je sais, c'est que le fait d'avoir des gens qui jouent leur propre rôle dans le film, que ce soit mes parents, le rabbin, le prêtre, la sœur, ma sœur, ça donne une vérité, ça nous impose un jeu authentique, quoi.
On a la chance de vous avoir tous les deux ici au sud de Coluche, et moi je suis bien content parce qu'on va parler cuisine. Je sais que vous aimez bien cuisiner et que vous cuisinez très bien, Régine Elmaleh. Qu'est-ce qu'il aimait manger, Gad, quand il était enfant ? Tiens, qu'est-ce que vous lui faisiez ?
Les frites.
Au Maroc, mais pas que des frites.
Non.
Il aimait les boulettes ou pas ?
Oui, toutes les spécialités marocaines, les brochettes, les boulettes.
Les keftas.
Les keftas, oui.
Et tout le monde peut goûter aussi votre fameux couscous légendaire maintenant, Régine. Vous êtes lancée dans le couscous, comme on dit avec Walida.
Walida.
Hein, c'est ça ? Non mais je blague pas, on peut le déguster à Paris, à Lyon, à Marseille et à Rennes.
Absolument.
Mais on va pas vous faire déguster un couscous aujourd'hui, Gad. Je vous présente une jeune chef. On aime bien découvrir de jeunes chefs ici à cette table. Elle s'appelle Rebecca Romer. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être Bonjour. Là. Vous avez un restaurant dans le 18e arrondissement de Paris qui s'appelle Rivka. Yes. Et quand on vous a dit que Gad avait été élevé aux boulettes, et on m'a parlé surtout des boulettes de Merlan.
Oui, aussi, c'est une spécialité.
Eh bien, elle s'est amusée, Rebecca, justement, à revisiter. Elle a pris ce risque de revisiter les boulettes de Merlan pour Gad. Racontez-nous, Rebecca.
Tout à fait. En votre honneur, Gad Elmaleh, moi, ma cuisine, c'est de la cuisine israélo-fusion asiatique.
Waouh!
C'est un mélange assez surprenant pour le coup.
Le sésame.
Ça a une histoire. Et ce que je vous ai préparé, du coup, aujourd'hui, c'est des croquettes de Merlan à base de coriandre et de citron Baldi. Vous allez retrouver de la trina en dessous à la menthe. Et vous avez un chou-fleur à côté rôti à l'israélienne, mariné avec du piment doux asiatique.
On explique ce qu'est
c'est génial.
C'est de la pâte de sésame.
Voilà, c'est ça, le tahiné qu'on appelle aussi le tahiné qu'on peut découvrir dans de belles cuisines méditerranéennes. Ça vous plaît, Gad ?
Rivka, dans les émissions, parfois on fait semblant de manger.
Oui.
Ben aujourd'hui, je ne fais pas semblant.
Rebecca, on va parler de votre formation.
Rivka.
Rivka, c'est le restaurant.
Mais c'est votre prénom aussi, non ?
C'est ça. C'est exactement ça. J'ai appelé mon restaurant avec le prénom qui veut dire Rebecca en hébreu.
Ah, voilà, exactement. Et vous êtes formé chez
le restaurant
Constant.
S'appelle comment ?
Il s'appelle Rivka le restaurant.
on dirait un film de Francis Weber.
Mais c'est juste son
nom. Mais juste son prénom. Rivka, c'est le restaurant ou c'est le prénom ?
Vous êtes formé chez Christian Constant, Rebecca, chez Yannick Aleno, Cyril Lignac. Et c'est d'ailleurs lui qui vous a donné le goût du voyage en Asie et de fusionner comme ça la Méditerranée et l'Asie, Cyril Lignac.
Ça marche, hein.
Ah oui, totalement.
Chou, c'est bon.
C'est Cyril Lignac et Dominique Boucher, exactement. En fait, j'ai été vraiment éduquée aux brasseries françaises traditionnelles avec Christian Constant et Yannick Aleno. Et après, vraiment, d'aller directement chez des chefs qui cuisinent un peu la fusion, le côté asiatique, qui a vraiment absolument rien à voir avec l'éducation que j'ai eue. J'ai eu une révélation absolument incroyable dessus.
Voilà, vous voyez, vous avez vu la Vierge, elle a vu justement une belle révélation pour la cuisine
asiatique. Moi, je suis transportée par le goût, c'est délicieux.
Wow. Bah, merci.
Vraiment.
Venant de Régine,
Rivka, très bon. D'avoir la validation de la maman.
Mais vraiment,
c'est mieux qu'une étoile.
C'est pour ça que je voulais qu'elle nous fasse cette recette, Rebecca, parce que je sais que Gad, vous adorez les boulettes au merlan de votre maman. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça va lui plaire à Gad ? Est-ce que ça va plaire à la maman ? Ça vous plaît aux deux,
c'est
donc, visiblement.
Bon.
Moi, j'aimerais bien qu'elles échangent leurs recettes.
Le chou-fleur est...
Comment vous faites cuire le chou-fleur, là ?
Alors, il est rôti à l'israélienne, tout l'influence. Et après, il est mariné avec du piment doux.
Rôti à l'israélienne, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on le couvre à base de papier, on le cuit entier dans un four pendant longtemps, vraiment, pour qu'il cuise à cœur. On l'ouvre à mi-cuisson, on le découpe, on enlève les pétales et tout. Et c'est là où justement vient la marinade à base de piment doux, de sauce de sésame, de sauce soja, un peu de miel, de piment doux.
C'est bien relevé.
On aura la recette sur le site ?
On aura la recette sur
europe1.fr.
Absolument, vous l'aurez.
Mais ça, on le mange où si je veux ce plat exactement ?
Rivka, 35 cité Véron à Paris.
Ah, ok, d'accord. J'ai envie d'y aller.
À côté de l'appartement de Boris Vian, qu'on peut encore visiter. Il est juste à côté cité Véron, l'appartement de Boris Vian.
Juste à côté.
Voilà.
Moi, je souhaite à Rivka qu'un jour, les gens cherchent l'appartement de Boris Vian et on lui répond,
vous
voyez Rivka,
voilà,
c'est juste en face.
Bien vu. C'est l'heure d'accueillir notre deuxième auditrice, tiens, pour tenter de trouver notre bruit de cuisine. Gad, vous êtes au courant, Europe 1 vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix, s'il vous plaît. Garantie 30 ans.
Ah, écoute, j'achète les appareils, moi, mais je les utilise pas.
Ah ben, il faut les utiliser.
Par exemple, on a le droit de citer ?
Oui, allez-y.
Le Thermomix.
Oui.
Pas le Thermomix. Oui, Thermomix.
Si, il y a le Thermomix, il y a le Cook Expert de Magimix.
Non, le Thermomix.
Oui, il y a plein de choses.
Il y a Astérix, il y a Obélix. Non, mais. Celui qui fait tout, là.
Oui, mais le Thermomix.
Eh ben, moi-même, avec le truc qui fait tout, je fais rien. C'est fou.
Ben, celui-ci.
Récemment, j'ai acheté l'aspirateur, là, qui aspire tout seul.
Oui, et ben celui-là.
Maintenant, je suis un blédard. Je le mets en marche et je le suis dans la
partie. Il permet de faire des choses parce qu'il est livré avec 85 recettes. Il fait plein de choses, des mijotés, des soupes, il vous fait des salades, mais il fait tout ce que vous voulez. Des boulettes.
Oh là là, c'est bon et c'est piquant en plus.
Alors on va accueillir notre auditrice, c'est Aude. Bonjour Aude.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants et bonjour à Gad Elmaleh, à sa maman.
Bonjour,
il mange,
merci.
Il se régale Aude. Alors on écoute le bruit de cuisine et vous nous dites à quoi vous pensez Aude. Qu'est-ce que c'est ?
Moi je sais.
Vous avez trouvé, vous pensez, ne dites rien pour l'instant Gad.
C'est un prisonnier qui veut s'évader.
Avec sa cuillère.
Qui
avec
les barreaux. À quoi vous pensez, cher Aude ?
Alors moi j'ai pensé à une moulinette pour râper le fromage comme avait ma grand-mère.
Ah, la petite moulinette, effectivement.
Qu'on tourne. Oui.
Et c'est quand on arrive à la fin et que le fromage est presque terminé, ça fait ce bruit-là. C'est bien vu Aude. Mais c'est pas ça malheureusement.
Mais
on vous envoie un livre de la rédaction. Merci d'avoir joué avec
nous. Merci beaucoup.
Merci pour ma fidélité.
Vous savez pourquoi je suis super content.
Et allez voir, reste un peu.
Au-delà du fait que ce soit bon, tout ça, qu'on passe un bon moment, c'est que j'ai une journée de dingue et j'aurais pas eu le temps de manger.
Et ben, mais c'est un vrai déjeuner. Mais tous nos invités nous le disent, effectivement, ils viennent déjeuner.
Absolument.
On est content de vous accueillir.
Moi, je vais prendre mon train et j'aurai mangé.
Et ben voilà, et ben, ça sert à ça. C'est la taille des
gens. Si c'était une matinale à 7h10,
c'est
ça, je ne mange pas à 7h10.
Ah, moi, je le mange à 6h du matin, sans problème.
Non, on est ouvert tous les samedis de 11h à 12h30. Vous revenez quand vous voulez.
On passe à table sur Europe 1.
J'adore les sushis.
Laurent Mariotte.
Ah bah oui, forcément, vous ne pouviez pas y échapper, Gad Elmaleh.
Ouais, c'est une réplique mystérieuse, ça. Laurent, vous savez que c'est une réplique, si on l'analyse un peu, il n'y a pas de vanne dedans. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de structure comique. Elle arrive à un moment dans le film,
avec un accent, avec une ambiance face à Alain Chabat, formidable, qui regarde
un chouchou.
Et c'est la réplique qu'on me sort tous les jours de ma vie, quel que soit le contexte. Mais je vous jure, dans des moments de toutes sortes de contextes, on me sort cette réplique, quoi. Mais vraiment, quoi.
Et vous aimez vraiment les sushis, vous, dans la vie ?
J'aime bien, mais... c'est vrai qu'il y a eu une période où on m'offrait des sushis tous les jours parce que j'avais dit ça. C'est un très bon souvenir.
Alors, un très bon souvenir, c'est ce qu'on va vivre, je pense, aussi quand on aura vu votre film qui s'appelle « Reste un peu », qui sort mercredi prochain, le 16 novembre. C'est votre histoire vraie, celle de votre retour des États-Unis chez vos parents avec Régine et David. Votre maman est avec nous, Régine aussi de Coluche. Gad, quand vous rentrez des États-Unis, justement, vos parents sont extrêmement touchants, je trouve, dans le film. Et très délicat à votre égard. Et Régine, vous mettez même un petit chocolat sur l'oreiller de Gad quand il vient dormir chez vous la première nuit, comme on fait dans les hôtels.
Dans
les grands hôtels. C'est quelque chose que vous faites vraiment, ça, dans la vie ?
Non.
Non, c'était pour le film, ça. Comment vous l'avez vécu, alors, son envie de se convertir, de se baptiser, son amour pour la Vierge Marie ?
Je ne l'ai pas vécu.
C'est un film.
C'est un film et c'est un peu votre histoire, quand
en
même.
En fait, le point de départ est une histoire. J'ai envie de dire, pour être très clair, qu'il y a des choses vraies et des choses pas vraies, mais c'est je ça. Ne vous dirai pas lesquelles.
C'est ça.
Et tout le monde se pose la question du baptême et la réponse, elle est dans le film.
Et il faut aller jusqu'au bout, mais évidemment. Il faut regarder le film et il sort mercredi prochain au cinéma. Alors, on parle beaucoup de votre maman, qui est géniale, qui joue très bien dans le film. Moi, je voudrais qu'on parle du papa aussi, qu'on parle de David, votre papa, vous en avez déjà beaucoup parlé, qui est un ancien mime, hein, qui a une façon de bouger, de jouer qui est extraordinaire. Et il est génial dans le film parce qu'il a un amour pour les simulateurs d'avions. Alors ça, mais quelle belle trouvaille. C'est une vraie trouvaille de comédie, ça. Parce que qu'est-ce qui nous fait marrer ?
Complètement.
Mais
c'est la réalité ?
C'est
allez-y.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Dis-moi, j'explique à monsieur.
La réalité, pourtant, on n'a pas encore commencé la chronique 20 d'Ophélie Neyman, mais vous allez voir, ce sera sans alcool en plus aujourd'hui. Donc c'est la réalité.
C'est la réalité.
Oui, il y a eu des moments marrants avec le simulateur à la maison.
Il s'habille vraiment avec une tenue de commandant, comme dans le film ?
Il faisait tout. Et quand je l'appelais pour manger, il me dit « J'atterris et j'arrive !»
C'est fantastique.
Et est-ce que vous faisiez les instructions des hôtesses de l'air les issues de secours ?
Blague à part, après avoir vu ce film, Gad Elmaleh, ça fait une vingtaine d'années qu'on se croise, on se connaît pas...
On connaît nos familles respectives, exactement. Je ne rentrerai pas dans les détails de votre vie privée.
Exactement, mais de la vôtre non plus. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je vous regarde plus pareil après avoir vu ce film. J'ai plus le même regard sur vous, en fait, après avoir vu ce film. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vos copains, comme Arthur, comme Danny Boone, qui sont vos proches aussi, vous disent ce genre de choses ?
Ce matin, un ami très proche me disait, en fait, c'est pas uniquement un film sur la religion. C'est vrai qu'il y a un chemin spirituel, mais il y a une forme d'inventaire, de point de... d'introspection, de recherche, qui est aussi celui d'un artiste. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un genre, une méthode où j'essaie de... pas de renaître, mais voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie perso. Et ce film-là, il est le fruit d'une histoire sur l'idée de la conversion, Marie, tout ça, mais il est aussi un moment précis de ma vie en tant qu'artiste. Donc j'espère, qu'on me voit différemment. J'ai toujours pensé que quand quelqu'un disait à un ami « c'est génial, t'as pas changé », c'est pas bon signe. Moi, j'aime bien quand on me dit « t'as changé » ou « j'aime bien que les gens changent ».
Bah, on est vivant, on bouge.
T'es resté le même, c'est pas un compliment pour moi.
Alors, à propos de changement, j'ai lu en préparant cette émission que vous aviez arrêté de boire. C'est la vérité ou c'est pour faire plaisir à votre maman qui est à côté ?
Pas du tout. Au contraire, mes parents, eux, ils boivent. Mais... arrêter de boire de l'alcool.
C'est arrêter de boire de l'alcool, bien sûr, c'est ça que vous
parce que sinon, on meurt.
Exactement.
J'ai entendu dire que vous êtes déshydraté. Alors.
On va parler boissons sans alcool avec vous, Ophélie, ce samedi. Et vous allez partir d'un bel animal avec une queue peu ordinaire, pour parler de boissons sans alcool. Ça peut paraître étonnant ce que je raconte, mais
le
c'est vrai.
Le paon. Parlons un peu du paon. Est-ce que vous saviez que le paon, pour avoir un joli plumage, une queue ornée de tant de couleurs, de tant de nuances, le paon doit boire énormément d'eau. Et c'est cette anecdote en fait qui a donné le nom à une cave, la cave d'Augustin Laborde, qui a ouvert en avril dernier au Buttes-Chaumont à Paris. Ça s'appelle donc le paon qui boit. Et c'est une cave exclusivement dédiée aux boissons sans alcool. Et c'est la seule de ce genre qui existe en France.
Venant de vous, ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Eh bien, justement, en fait, le paon qui boit m'a prise par surprise. J'en suis venue à me demander pourquoi est-ce que j'aime autant le vin et les alcools. Eh bien, Je vois ici, il y en a beaucoup qui ne vont pas me croire. Mais pourtant, c'est vrai, c'est d'abord pour leur complexité aromatique et leurs multiples saveurs que j'aime ça.
On est loin du champomis, vous voulez dire.
Ouais, c'est ça. C'est pas du tout boisson sucrée ou boisson fade. Il y a des vins sans alcool, j'ai pas tellement envie d'en parler. Il y a
c'est
tout
où,
un mur de bière. C'est près des buts Chaumont à Paris, le Pan qui boit. Et bientôt, ils ouvrent une boutique en ligne d'ici une semaine à peu près.
Où ? Ils ouvrent où la boutique en ligne ?
En ligne.
Sur le cloud.
Non. Ah ben je vais y aller, je suis souvent sur le cloud. Sur le...
Bah,
c'est
donc
une quête spirituelle.
Bien sûr, c'est une recherche.
C'est donc on va trouver des bières vraiment intéressantes, avec de l'amertume, avec la force du houblon qu'on a dans une IPA, avec le grillé ou la mâche qu'on peut avoir dans une stout. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est ce que je vous ai apporté là.
Allons-y.
Ce sont d'autres boissons qui sortent de l'ordinaire. Alors d'abord, j'ai une petite anisette là dans votre verre.
Ah oui.
Alors ça s'appelle Cristal 100.
Comme au Maroc, la petite anisette.
De Lumignana.
Ah bah oui.
Alors, et vous allez voir, alors, donc il n'y a pas d'alcool.
Il n'y a pas d'alcool dedans. Vous êtes sûr?
Ah bah oui, oui, bah sinon je ne vous la servirais pas quand même.
Non, promis, Gad. Non, c'est pas une blague.
Mais ça sent l'anisette.
C'est incroyable. C'est, ouais. Au nez, c'est la même chose.
Et en bouche?
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la
bouche. Mais il n'y a pas la brûlure de l'alcool. Mais il n'y a pas d'alcool du tout dedans. Ça coûte 12€ la bouteille.
Mais
c'est de l'anis, c'est une infusion d'anis.
C'est
pas de réglisse,
en fait.
C'est un pastis, mais sans alcool. Il y a du fenouil.
C'est un pastaga.
Faux, mais sans alcool.
Mais sans alcool.
C'est ça, c'est le même.
Et alors, si vous avez envie de vous amuser encore plus, je vous invite à sentir le verre que vous avez ici, un peu trouble. C'est un coup de cœur. Ce sont des Français qui font ça. C'est Made in France, s'appelle Ousia Rum Cito. C'est un cocktail sans alcool aux arômes de gingembre, de citron vert et de rhum vieilli en fût de chêne. Vous sentez comme ça sent le rhum. Moi, je trouve ça génial parce que ça sent vraiment le rhum à plein nez. C'est quasiment pas sucré. 4 grammes de sucre par litre. Et c'est super drôle à boire.
C'est incroyable. C'est très, très bien vu.
Ça marche bien. Hein.
Merci, Ophélie Neyman. Et on mettra les références sur europe1.fr.
Bien entendu. C'est super, ça.
Attention, on arrive bientôt vers midi et demi. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, cher Gad Elmaleh. C'est parti, ça va chauffer.
Lechaim.
Lechaim.
À la vie.
Absolument. Quel est le goût de votre enfance, Gad Elmaleh ?
La soupe de fèves.
Ah, que trouve-t-on toujours dans votre frigo ?
Des yaourts au lait de coco.
Ah, elle ne savait pas, votre maman, si elle savait.
Bah, elle ne va pas savoir ce qu'il y a dans mon frigo, ma maman.
Votre
déjà, elle a fouillé dans ma valise.
Elle a vu la Vierge Marie.
Elle a vu la Vierge Marie.
Donc,
Alors si elle fouille dans mon frigo, elle ne va pas être au bout de ses surprises.
Quel est votre plus beau repas, Gad Elmaleh ?
Un repas en tout cas qui est inoubliable que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était dans une abbaye avec des moines.
Et donc frugal et sobriété, j'imagine.
Et en silence.
Ah, ça fait du bien aussi. Hein.
Ah, c'est pas mal.
Votre pire repas ?
Mon pire repas, alors le pire, bon.
Votre maman a peur, mais non.
Non, le pas pire. Le pire, c'est quand je m'ennuie. Le pire, c'est avec des gens qui sont ennuyeux.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Mes deux garçons. Un dîner à trois. Dans un resto, plus dans un resto qu'à la maison, un resto qui leur fait plaisir. Mais un dîner de mecs avec les deux garçons, je trouve ça très cool.
Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Bah, le mot de la fin, c'est peut-être un mot de prière, de reconnaissance, quelle que soit notre confession, qu'on soit croyant ou pas croyant. J'aime l'idée d'être reconnaissant. C'est même pas religieux, c'est juste être ensemble autour d'un repas et se dire, hey, on a de la chance quand même.
Merci Gad Elmaleh, c'est un plaisir de
vous
avoir à
cette table. Soyez bénis,
mais je vous bénis, mon fils, pour ça. Voilà, mon frère. Merci d'être venu à cette table. Merci Régine, c'est un plaisir de vous avoir à cette table avec Gad, et on va vous voir au cinéma tous les deux avec papa aussi, David Elmaleh et Judith Elmaleh. C'est le 16 novembre, ça s'appelle Reste un peu. C'est drôle, c'est touchant, c'est intime, ça fait du bien, et c'est un Gad Elmaleh comme vous ne l'avez jamais vu que vous verrez au cinéma. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Et merci les amis. Salut Olivier. Pouls.
Et bonne semaine.
À bientôt sur Europe 1. Merci Ophélie Neyman.
Merci,
à bientôt
Laurent.
Dans le monde. Merci Rebecca Romer d'être venue avec vos belles boulettes de croquettes de Merlan.
Ça fait un peu bizarre. Merci d'être venue avec vos belles boulettes.
C'est le restaurant Rivka. Et merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission.
Et merci Laurent d'être venu avec vos belles boulettes.
Mais je reviendrai la semaine prochaine. On sera là.